RCF.
RCF Isère, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
La valeur de l'homme, aujourd'hui, histoire du carnaval de Venise. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Valeur de l'Homme. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un mythe romantique, le carnaval de Venise. L'évocation de ce nom suffit à faire surgir dans nos esprits des images très précises, même pour ceux qui ne sont jamais allés à Venise. Nous voyons des silhouettes masquées, portant des tricornes et des capes sombres, alanguies sur des gondoles, en quête de mystère ou d'érotisme, dans une étrange clarté nocturne. Mais le carnaval de Venise est évidemment davantage que cette image construite à notre intention par ses admirateurs. C'est un rituel ancien qui semble commencer au XIe siècle, un rituel complexe aussi et évolutif, qui dit la manière dont Venise se regarde elle-même et qui a aussi des dimensions politiques qu'il nous faudra explorer. Cette tentation de Venise, nous allons y céder aujourd'hui avec notre invité Gilles Bertrand, auteur en 2013 d'une histoire du carnaval de Venise publiée chez Pygmalion. Bonjour Gilles Bertrand.
Bonjour.
Gilles Bertrand, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble et membre du prestigieux Institut universitaire de France. Vous avez publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur le voyage à l'époque moderne, sur les échanges culturels, sur les rituels et les fêtes, notamment dans leur dimension politique. Et vous avez aussi travaillé spécifiquement donc sur le carnaval de Venise qui va nous intéresser aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous dire comment fonctionne politiquement Venise au XVe, au XVIe siècle? C'est une cité-État, hein, c'est un système qu'on a un peu oublié, c'est une cité-État autonome.
Eh bien oui, Venise, en fait, c'est une république. Et en tant que ville capitale de cette république, à elle seule, elle rassemble toute l'énergie politique au point que ceux qui sont dans les villes soumises à Venise se sentent très brimés par la capitale. Alors, une cité-État, ça veut dire une cité qui est politiquement autonome et qui revendique sa liberté dans le monde à une époque, je parle de l'époque moderne, celle d'avant la Révolution française, où cette autorité est détenue par des princes. Et Venise a la particularité de proposer une autorité détenue par plusieurs, en quelque sorte par un prince collectif, un prince sans visage, sinon celui apparent du doge, qui constitue une autorité plus symbolique que réelle. Car la réalité du pouvoir, c'est celle que finalement les aristocrates, ces patriciens comme on les appelait, se partagent au sein d'un grand conseil qui au XVIe siècle comportait à peu près 2000 personnes, au XVIIIe siècle plus que 1000-1200, mais qui est lui-même l'héritier de toute une tradition politique sur laquelle, je crois, il faut peut-être rappeler qu'avant d'aller au-delà vers la tentative de comprendre ce qu'a été le carnaval, il faut peut-être rappeler qu'elle n'est pas apparue comme ça un beau jour au moment de la Renaissance, et que en fait elle est le fruit d'une véritable communauté. Je crois que le mot de communauté est le plus propre, le plus adapté à définir ce qu'est cette cité-État. Une communauté qui n'a pas toujours été gérée par l'aristocratie, par l'oligarchie, par les meilleurs, mais qui était aussi une communauté populaire. Et la Venise du fond du Moyen-Âge, si l'on peut dire, celle qui nous arrive des temps carolingiens, qui est aussi celle qui est la Venise du début du carnaval, au XIe siècle, c'est en fait ce qu'on appelait le Comune Veneciarum, la commune des Vénitiens, qui était gérée par une assemblée populaire où tous les habitants prenaient les décisions. Et donc, nous venons de là, et on l'a un petit peu oublié quand on pense à la Venise magnifique de ces patriciens qui se réunissent au Grand Conseil. C'est en fait simplement autour du XIIIe siècle qu'ils ont réussi finalement à éradiquer toute autorité que jusque-là, l'Assemblée populaire possédait, le doge en étant l'émanation.
D'accord. Donc, au fond, une république avait déjà inventé quelque chose de l'ordre de la, alors j'allais dire démocratie participative, mais en tout cas d'une participation populaire, et qui pourra aussi d'ailleurs expliquer le fait qu'il y a un carnaval. C'est-à-dire qu'on va, de temps en temps, revivifier cette communauté et la refaire exister.
Voilà, c'est tout à fait. C'est pour ça que cette idée de communauté, je pense qu'elle est, elle est centrale, parce qu'elle est composée par des éléments qui sont divers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pauvres, il y en a qui sont riches, mais dans une forme d'idéal de la République sérénissime, le point de départ, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne, qui est une sorte d'identité collective. Et le problème, c'est qu'il y a tout de même aussi des tensions sociales. Et qu'à partir du XIIIe siècle, on sent très bien que lorsque la puissance commerciale, économique, lorsque la richesse monte à Venise, eh bien, les écarts s'accroissent et il devient de plus en plus insupportable aux riches de vivre sous la menace d'une domination populaire. Et c'est pourquoi, vers la fin du XIIIe, on voit se structurer toute cette organisation qu'on connaît sous la forme non seulement du Grand Conseil, mais aussi d'instances exécutives très étroites, comme le Conseil des Dix.
Alors, dites-nous un mot de ce Conseil des Dix. C'est une police politique, c'est quoi exactement? C'est un peu mystérieux.
Ben oui, comme le doge n'a pas l'autorité réelle, il faut qu'elle soit donnée à des personnes qui sont plus qu'une, autrement dit, un petit collectif. Et donc, il y a 10 personnes que le Grand Conseil, mais aussi une instance qui peu à peu s'impose, qui est le Sénat, c'est-à-dire une partie du Grand Conseil, qui est une sorte de structure intermédiaire entre le Grand Conseil et le doge. Et donc, cette structure-là nomme le Sénat, en l'occurrence, 10 conseillers, le fameux Conseil des 10, qui ont en particulier une mission de police. Et ça nous renvoie très, 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 très vite au carnaval, à l'idée d'un contrôle de cette population dont on a quand même toujours peur qu'elle explose, notamment au moment du carnaval.
D'accord. Donc on reviendra sur cette idée du carnaval comme moyen, au fond, de contrôler la population. Mais c'est vrai qu'on sent bien, effectivement, que dès l'origine, le carnaval a des fonctions politiques. Alors, par exemple, une fonction qui viserait, au fond, à dire la magnificence de Venise, sa puissance, et notamment sa puissance maritime, enfin, sa maîtrise des mers. Il y a cette idée-là
Il y a tout à fait cette idée-là. Mais je pense que c'est une idée qui vient après une autre idée, qui est celle de rendre cohérente la cité, cette fameuse communauté où il y a des pauvres, où il y a des riches. Et je pense que la toute première fonction est liée à celle que vous évoquez, c'est-à-dire à cette fonction d'apparaître face à l'extérieur. Mais il y a d'abord l'idée qu'il faut souder les quartiers, les contrades, c'est-à-dire ces 70 paroisses qui correspondent à 70 îlots séparés les uns des autres par des canaux, et eux-mêmes pénétrés de canaux, ce fait qu'il y a plus que 70 îlots à Venise, mais enfin il y a 70 contrades, et les toutes premières manifestations collectives du carnaval, elle se retrouve au début du mois de février, le 2 février, le jour de la purification de la Vierge, qui était précédemment le jour de la Chandeleur, lorsque on fête les 12 Maries, c'est-à-dire que 12 des 70 contrades sont invités chaque année à présenter 12 jeunes filles pauvres auxquelles le doge est chargé de donner un cadeau, une dot en fait, le jour de leur mariage, en signe de cohésion de la cité. Et donc, on est là véritablement aux prémices du carnaval avec cette idée que par une fête collective, les différentes contrades s'assemblent. Mais elles s'assemblent, en fait, autour d'une idée qui se tourne aussi vers l'extérieur. Et c'est pour cela, vous avez absolument raison de dire que c'est cet élément de regard que la ville, que la cité porte sur l'extérieur est fondateur de son identité carnavalesque et de son identité politique tout court.
D'accord. Ouais, ouais.
Parce que le carnaval, en fait, très vite... une transformation de cette fête des 12 Maries qui aurait été instituée autour du XIe siècle en une fête qui est celle du Jeudi Gras. Lorsque, au XIVe siècle, les 12 Maries disparaissent, eh bien, il y a le Jeudi Gras qui apparaît. Et le Jeudi Gras, Giovedì Grasso, est bien marqué par cette réalité carnavalesque de la bombance, de faire chair, faire gras. Mais le Jeudi Gras, la ville, la cité, cette cité-État, fête symboliquement la domination sur la terra ferma, sur la terre ferme, c'est-à-dire sur une victoire qui, c'est ce qu'on dit au XIVe, à la fin du XIVe siècle, qui aurait été remportée sur le patriarche d'Aquileia. Aquileia, c'est au nord de la mer Adriatique, au nord-est de Venise. Et cette victoire de la deuxième moitié du XIIe siècle, en fait, aurait été l'occasion de demander au patriarche et à ses 12 chanoines, au moment du carnaval, le Jeudi Gras, de donner à Venise 12 porcs et 12 pains de farine, autrement dit, de quoi se nourrir de la chair, en quelque sorte, des dominés. Et c'est ainsi que la dominante et la dominante, comme on appelait Venise, fête collectivement son pouvoir sur les autres. Donc, le carnaval à proprement cette fonction politique dès les origines, si l'on peut dire, dans les documents qu'on a conservés, du moins, à savoir que il dit ce carnaval réjouissance, bombance, et ça n'est pas original. C'est le cas de Barcelone à Séville, de Naples à Milan. Au Moyen-Âge, tous les carnavals étaient à peu près similaires, et celui de Venise n'était pas en cela dissemblable. On y pratiquait l'excès, on y pratiquait le contrôle. Mais ce qui est spécifique de Venise, c'est qu'à Venise, on associe assez rapidement, 14e siècle, c'est très net, le carnaval non seulement à l'idée de l'excès, non seulement à l'idée de faire bombance, mais aussi à l'idée d'affirmer la supériorité de Venise sur les mers.
Valeurs de l'homme, nous sommes en compagnie de Gilles Bertrand pour son histoire du carnaval de Venise. Alors on a vu que ce carnaval était une fête d'intégration locale, c'était aussi une fête qui annonce ou qui rappelle la suprématie à la fois sur la mer et sur la terre. Alors c'est un carnaval qui est rempli d'attractions, il y a des animaux savants, alors selon les périodes, il y a des joutes, il y a des défilés, il y a des jeux, il y a des machines flottantes, il y a des opéras, mais ce qui reste central au fond c'est l'habit de carnaval, la bauta, qui est une sorte de grand châle, de grande cape, et bien sûr les masques. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Est-ce qu'on est purement dans l'esthétique, ou est-ce que les masques, la bauta, ont une fonction politique?
Alors, je crois que la question est quand même assez complexe, parce qu'on a une image aujourd'hui qui se fixe sur cette bauta, sur ce costume qui était porté à partir du XVIIe siècle seulement, par les personnes de l'aristocratie vénitienne. Et en fait, on est là situé dans une époque qui n'est pas l'époque d'apparition des masques. Parce que des masques, il en existe, a priori, depuis la fin du XIe siècle, puisque la première mention en 1094 du carnaval était pour donner liberté de se masquer. Mmh. Et puis, tout au long du Moyen-Âge, on a plutôt, par des édits, à partir du 14, c'est le Conseil des 10 qui en est le garant, on a plutôt la mention de masques très variés, des personnes qui se déguisent pas seulement des masques, qui se déguisent en femmes, des masques qui commettent des violences, des masques qui lancent des œufs. Bon, une espèce de vision plutôt du débordement. Et cet aspect extrêmement libre et varié des masques s'approfondit à la Renaissance, lorsque ce carnaval se police sous l'autorité de l'oligarchie vénitienne. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une grande variété. Il y a les masques de la Comédia dell'Arte qui se déploient au XVIe siècle. Il y a la persistance de ces masques issus du Moyen-Âge, d'hommes sauvages, de diables. Il y a ces masques qui disent bien la puissance commerciale de Venise au XIV, XV, XVIe siècle, c'est-à-dire ces costumes orientaux. Il y a toute cette bigarrure, finalement, qui fait contraste avec ce masque auquel on associe aujourd'hui volontiers le carnaval de Venise, c'est-à-dire cette fameuse bauta, laquelle est en réalité une tenue extrêmement uniforme, qui s'impose très progressivement au cours du XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'âge baroque, lorsque le faste, la richesse des costumes que ces riches vénitiens, qui sont nobles et en même temps commerçants, c'est une particularité, c'est une différence avec d'autres pays, la France notamment, lorsqu'ils s'habillent de manière luxueuse, ils disent leur une différence tellement forte avec les autres que la République veut limiter cette inégalité dans l'apparence. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître une culture du masque du noble, du masque du riche, qui est en fait forgée au sein d'une académie, dont d'ailleurs je n'ai pas, à mon avis, assez parlé lorsque j'avais écrit cette histoire du carnaval de Venise il y a 2 ans, qui est l'Accademia degli Incogniti, l'Académie des Inconnus, qui, entre 1630 et 1660, voit hommes et femmes se réunir en masque, et précisément avec ce masque qui est le point de départ de cette bauta que les peintres du milieu du XVIIe siècle, comme Joseph Heinz, montrent dans leurs images en train de se faire, et qui en fait ne devient véritablement le masque, c'est la configuration qu'on lui connaît aujourd'hui, qu'on voit dans les tableaux de Longhi ou de Tiepolo, qu'on voit dans beaucoup de publicités du carnaval. En fait, c'est à la fin du XVIIe siècle qu'il a sa configuration, et à ce moment-là, il est présent dans les dots, c'est un élément d'apparat, et simplement sa particularité, et en même temps les fonctions politiques et de divertissement qui lui sont paradoxalement et en même temps associées, sa particularité, c'est d'être une espèce d'uniforme. Donc, c'est un masque qui est porté non seulement au moment du carnaval, sachant que le carnaval à Venise, il commence le jour de la Saint-Étienne, Santo Stefano, lendemain de Noël, 26 décembre, jusqu'au Mardi Gras, ça c'est le sens strict, et on y porte ce masque. Mais en fait, ce masque, il est porté aussi en d'autres périodes de l'année que l'on appelle carnaval.
Mais c'est ça, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le carnaval est beaucoup plus long que l'idée qu'on en a.
Exactement. Ouais. Il est possible qu'au Moyen-Âge, il ait une durée relativement réduite, entre Noël et le carême, mais à l'époque moderne, celle que les historiens disent moderne par rapport au Moyen-Âge, c'est-à-dire de la Renaissance à la Révolution française. En gros, à cette époque-là, on peut dire qu'il dure 3-4 mois. Certains allaient même jusqu'à dire 6 mois, parce qu'en fait, il correspond, ce temps du port des masques, il correspond au temps de l'autorisation des théâtres. Ce qui veut dire non seulement en hiver, non seulement au printemps, en mai, juin, au moment de cette fameuse fête de l'Ascension, où le doge va épouser la mère et où pendant une quinzaine de jours, tout le monde se masque, mais aussi à l'automne, entre le 1er octobre et le début de l'Avent, début décembre. Donc, temps du théâtre égale temps des masques. Et dans ces masques, il y en a un qui l'emporte peu à peu au XVIIe siècle sur les autres, c'est la fameuse bauta. Ça ne veut pas dire que le peuple ne continue pas à se déguiser en des masques variés, des déguisements de toutes sortes, mais ça, c'est dans les 10-15 jours qui précèdent le carême. En revanche, tout le reste de l'année, et même pour les cérémonies politiques, eh bien, on porte ce masque de bauta. On le porte pour des raisons qui ne sont pas seulement de divertissement, qui sont aussi de contrôle social, dans la mesure où il faut éviter que la richesse des uns n'apparaisse par rapport aux autres, et puis aussi de contrôle politique, dans la mesure où il s'agit d'éviter que des étrangers ne puissent communiquer avec des Vénitiens, et ainsi éviter que des complots ne se trament contre la République, parce qu'il y a une véritable obsession de cette cité-État dont nous sommes partis tout à l'heure. L'obsession, c'est d'être attaqué par toutes sortes d'ennemis, d'où les fameux espions qui sont là à surveiller. Et le masque joue aussi son rôle dans cette stratégie.
Alors, qu'on peut en dire un mot, parce qu'au fond, il y a dans votre ouvrage, Gilles Bertrand, l'idée, vous l'avez mentionné très brièvement, que le masque permet l'égalité, ou en tout cas permet l'égalisation des conditions et la non-reconnaissance au fond des hiérarchies sociales. Alors, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Et en même temps, quel intérêt a l'aristocratie de ne pas se montrer. Pourquoi, voilà, pourquoi ne pas jouer de la différence sociale et marquer, après tout, par les habits, par la posture, par le phrasé, marquer cette différenciation sociale ?
Et bien évidemment, parce que nous, nous raisonnons comme des sujets de monarques. Et nous pensons qu'une cour doit être splendide et que les commensaux doivent pouvoir manifester par leur propre magnificence vestimentaire la magnificence du souverain. À Venise, nous sommes dans une république, ne l'oublions pas, à l'époque où il y a assez peu de républiques en Europe, il y a Gênes, il y a Luc, il y a la République des Provinces Unies, à partir du XVIIe siècle, il y a les républiques suisses, enfin helvétiques, mais il y en a quand même assez peu, et ces républiques sont obsédées par le risque que certains prennent le pouvoir, comme c'était le cas à Florence avec les Médicis, par exemple. Donc il faut éviter cela à tout prix. Et il y a une conjonction des désirs de limitation du prestige ou du pouvoir ou de la richesse apparente des uns par les autres qui se manifeste de cette manière. D'où cette fonction très, très originale, éviter la magnificence. Parce que la magnificence, elle doit être collective. C'est donc Venise tout entière qui se présente à toute l'Europe comme magnifique. Elle est magnifique. Et par la beauté, par la splendeur des régates, des spectacles sur l'eau, par la splendeur des chasses aux taureaux, des tournois, ça c'est jusqu'au début de la Renaissance, par la splendeur de tous ces spectacles du Jeudi Gras offerts à ceux qui viennent voir le carnaval, eh bien Venise peut manifester son prestige. Elle ne le manifesterait pas si certains voulaient avoir le pouvoir par rapport aux autres. Elle ne manifesterait pas, du moins en tant que république cohérente.
Elle marquerait ses divisions avec le risque d'un coup d'État ou en tout cas d'une conquête. Est-ce qu'on peut dire qu'assez vite ou dès le commencement, s'il y a un commencement, en tout cas dès que les formes du carnaval s'institutionnalisent, qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une fête un peu commerciale, lucrative? Il y a déjà le commerce des masques, mais est-ce qu'il y a quand même cette dimension-là commerciale dès l'époque?
Bien sûr. Alors, je crois que cette dimension, on la voit apparaître dès le Moyen-Âge. On a évoqué un bref instant, les épousailles du doge avec la mère au moment de l'ascension, qui forment ce qu'on appelle un carnaval de printemps, un carnaval différent de celui de l'hiver. Eh bien, au XVe siècle, les pèlerins sur la route de Jérusalem s'arrêtaient à Venise pour, pendant une quinzaine de jours, acheter à la foire qui, beaucoup de personnes y étaient masquées, mais il y avait surtout du commerce qui s'y faisait. Et donc, cette dimension économique, j'aimerais bien peut-être, je ne sais pas, y revenir, parce qu'elle est fondatrice de ce carnaval. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une forme de compensation. Lorsque Venise cesse d'avoir une véritable puissance économique par le commerce ou une puissance diplomatique au niveau politique en Europe, elle compense cet affaiblissement à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est l'époque de Titien et de Véronèse, où elle affirme une espèce de splendeur compensatrice de sa perte de pouvoir réel. Fällt i land Un kanske det så ibland Min del är tjänkad Det klimde kvar går Och sönder lymsa Tin jag ser öppen blåk ut Sen där fällas så lunda Dun, diana Tjock och sandila Our fella walks alone through your lens and your ears. He was born to do so that no one would interfere. Fella being made of hands, flesh and wood. Though he needs people to swarm around him every time he would make his court swing deep inside his heart. And Nostrum fellow isn't someone you can even stop walking. Sazina. Kanske det så ibland Min del är tjänkad Tills det klimde kvar går Och sönder lymsa Tin jag ser öppen blåk ut Sen där fällas så lunda Dun, diana Tjock och sandila I'm walking and feeling The scratch on my dreams I fight against The sweetened disease I need, I feed I love and breed And spread it all over again yeah.
La valeur de l'homme, en compagnie de Gilles Bertrand, auteur d'une histoire du carnaval de Venise. Alors, on a évoqué cette idée qu'au fond, le carnaval avait des fonctions politiques, mais qu'il avait aussi des fonctions économiques, et qu'en tout cas, on pouvait exprimer par le carnaval quelque chose qui était de l'ordre de la puissance commerciale ou de la puissance économique de Venise.
Alors, on l'exprime, mais on en profite également. Mm-hmm. Parce qu'à Venise, il y a toute une opération d'hôtellerie qui incite à la consommation. On peut voir dès le XVIe siècle des listes d'hôteliers, parce qu'ils étaient obligés d'enregistrer le nom de ceux qui venaient, qui nous donnent la trace de ce commerce très, très lucratif, puisqu'aux hôtels s'ajoutaient aussi, bien sûr, les besoins en alimentation ou autres. Il y a tous ces guides qui apparaissent là aussi dès le XVe siècle. Quand on pense qu'à Lyon, on trouve un guide au XVIIIe siècle et qu'il faut attendre le début du XIXe siècle pour avoir des guides sur Lyon, eh bien on est frappé de voir cette calamita di Europa, l'aimant de l'Europe. Hein. Fin XVIIe, c'est un guide de Venise qui est créé pour montrer comment on est attiré par Venise. Et on pourrait parler des fabricants de masques qui génèrent une véritable industrie, et ça dès le XVe siècle. Hein. On pourrait parler aussi, bien sûr, de toute cette politique théâtrale, de tous ces théâtres qui rivalisaient les uns avec les autres dans les palais des nobles et qui certainement servait à l'enrichissement des Vénitiens. Donc il y a véritablement une économie très lucrative qui n'a pas attendu le XXe siècle pour se développer.
Absolument. Alors ce qui est frappant dans votre ouvrage, c'est qu'au fond, le carnaval de Venise pourrait avoir tout ce que les anthropologues appellent un rituel d'inversion. Enfin, il pourrait avoir toutes les caractéristiques d'un rituel d'inversion ou d'une fête d'inversion, c'est-à-dire le moment où on va redonner le pouvoir aux classes dominées qui, pendant une journée, vont avoir le droit d'être dans toutes les licences et dans une licence autorisée par le pouvoir, lequel pouvoir reprendra ensuite la main après cette journée d'inversion. Et en même temps, ce que vous nous dites, c'est que c'est un peu tout le contraire. C'est-à-dire que le carnaval de Venise, lui, il sert plutôt à civiliser les mœurs au sens de Norbert Elias, c'est-à-dire qu'il sert en fait à contrôler les conduites. Alors expliquez-nous comment le carnaval contrôle les conduites.
Et oui, et en fait, c'est tout à fait frappant à Venise de constater cette police des mœurs auxquelles le carnaval contribue. Il faut être masqué non pas seulement pour s'amuser, mais pour éviter des abus dans les comportements, pour aussi qu'on ne voit pas tout ce qui se passe dans les tripots, dans les monastères éventuellement, hein, puisqu'il y a toute cette pratique du libertinage qui est un élément constitutif du carnaval baroque. Il y a une forme d'hypocrisie, très certainement, au point qu'on pourrait dire même le carême est un temps de la réjouissance, par exemple musicale, qui fait que le carnaval entre d'une certaine manière dans le carême. Bref, on a cette idée selon laquelle, en fait, ne parlez pas, ne touchez pas ouvertement à la politique et à la religion, mais faites par ailleurs tout ce que vous voulez. Et donc, ceci produit le paradoxe que vous évoquez. Inversion, comment peut-on, quand il y a carnaval pendant 4 à 6 mois de l'année, parler d'inversion en un jour ?
Ce serait beaucoup trop long.
Voilà. Alors, on laisse quand même un petit espace d'inversion lorsque on se dit les chasses aux taureaux, qui sont quand même une expression de violence qui fait plaisir aux foules, on ne va pas les enlever. Et effectivement, ce carnaval très policé maintient cette dimension d'inversion pour le peuple par quelques exercices, comme aussi les forces d'Hercule, qui sont des exercices acrobatiques, et toute une série de luttes de pointe où des factions, pendant un moment très bref, se battent. Donc il y a quand même des rituels qu'on peut associer à l'inversion. Néanmoins, je pense qu'il y a cet équilibre que Venise incarne et qui n'est pas propre à Venise en réalité, entre le contrôle et l'excès. C'est-à-dire que les violences sont là. On dit même que les Vénitiens faisaient beaucoup de mal aux chats et aux oies, mais elles sont contrôlées parce que le pouvoir politique veille, si vous voulez.
D'accord, donc le carnaval comme forme d'encadrement, au fond, de violence ou de pulsion. Gilles Bertrand, j'aimerais qu'on achève cette émission en évoquant quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'invention de la tradition ou la réinvention de la tradition, puisque le carnaval de Venise a été réinventé en 1980. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau carnaval, et est-ce qu'on peut, par exemple, le comparer à d'autres carnavals très contemporains ?
Et oui, effectivement, le carnaval de Venise a été associé dans son développement ancien à une structure politique qui est morte en 1797, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. C'était la République de Venise. Et le carnaval, on l'a vu, on l'a dit, servait à conforter cette autonomie, cette liberté politique. Mais dès lors que Venise fut soumise, non seulement au XIXe siècle à la France, à l'Autriche, mais à partir de l'unité italienne, elle est devenue une symbole simple ville à l'intérieur de l'État italien, on peut se demander quel sens pouvait avoir le carnaval. Et effectivement, il a subsisté un certain nombre de formes un petit peu faibles, ou plus ou moins, plus exactement, privé par rapport à ce carnaval collectif. Dans des palais notamment, on continue à se déguiser à la fin du 19e, tout au long du 20e. Et puis, néanmoins, il y a effectivement eu, en 1980, après vraiment des décennies d'éradication, dont le fascisme a été un moment très fort, plus de carnaval du tout, eh bien, il y a eu une espèce de volonté collective des Vénitiens de refaire le carnaval en partant du théâtre, de l'idée du théâtre dans les quartiers. C'est 1980.
D'accord. Et retrouver au fond une magnificence.
Retrouver surtout l'amusement collectif. Simplement, la magnificence, elle a été prise en charge par une économie touristique.
Merci beaucoup Gilles Bertrand. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire du carnaval de Venise, publié chez Pygmalion en 2013. Nous avons écouté un morceau de Prince Power, fantastique, et un morceau de Nosfell, Mindala Jinka. Nosfell sera en concert exceptionnel le 4 mars au Trianon. Il jouera tout l'album dont est issue cette chanson. Merci beaucoup, à très bientôt.